Bonjour, bienvenue. Merci d'être si matinal et ici à la maison Heinrich Heine de bonne heure, comme c'est maintenant une belle habitude pour ce cycle « Ce qui fait bouger l'Allemagne », un cycle qui est donc organisé en partenariat avec le CERFA de l'IFRI. Et nous sommes très heureux et heureuses de cette coopération qui nous permet de vous amener de plus en plus nombreux à, je le répète, une heure si matinale ici à la cité universitaire. Ce cycle, dans son ensemble, a pour ambition d'ouvrir un espace d'échange autour des grandes transformations politiques qui traversent aujourd'hui l'Allemagne, dans un contexte marqué par des bouleversements géopolitiques, sécuritaires, économiques, mais aussi intérieurs. L'Allemagne se trouve confrontée à des choix structurants qui concernent non seulement son avenir national, mais également celui de l'Europe. Ces évolutions ont, vous le savez bien, des répercussions directes sur les relations franco-allemandes qui demeurent un moteur essentiel de la construction européenne. La thématique qui nous réunit aujourd'hui est au cœur de ces transformations, la politique de défense allemande. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Allemagne a engagé ce que le chancelier Olaf Scholz a qualifié de Zeitenwende, un tournant majeur dans sa politique de sécurité. L'augmentation des dépenses militaires, la modernisation de la Bundeswehr ou encore les discussions autour d'un retour du service militaire obligatoire témoignent d'une évolution profonde des priorités stratégiques de ce pays. Mais ces changements ne relèvent pas uniquement des questions militaires ou capacitaires. Ils touchent aussi à des débats fondamentaux au sein de la société allemande, le rapport à la sécurité, la responsabilité internationale de l'Allemagne, ainsi que la place des citoyens dans l'effort de défense. Dès lors, plusieurs questions se posent et seront donc au cœur de ces débats d'aujourd'hui. Comment concilier impératifs de sécurité et débats démocratiques? Quel rôle pour la Bundeswehr dans un environnement international de plus en plus instable? Et quelles sont les implications de ces évolutions pour la société allemande et plus largement pour l'Europe? Pour en discuter ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants que je remercie donc chaleureusement. Paul Maurice, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes, donc le CERFA à l'IFRI, et Johanna Möhring, chercheuse associée au Centre interdisciplinaire sur les enjeux stratégiques à l'École normale supérieure et associate fellow au Centre Cassis. Donc, ces travaux portent notamment sur les questions de sécurité et de défense en Europe. Et je laisse le plaisir à Jeannette de vous présenter les intervenants plus en détail et plus amplement. Jeannette Zustank, chercheuse au comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI, que je remercie également pour cette modération, pour cette table ronde, mais généralement pour la belle collaboration que nous avons. Il faut que je commence à compter à chaque fois, je me demande. Ça fait déjà un bon moment qu'on fait ce chemin ensemble et c'est un très grand plaisir. Merci beaucoup. Donc je vous remercie à toutes et à tous pour votre présence ce matin et pour l'intérêt que vous portez à cette discussion. Je laisse la place à la table et je serai heureuse de vous retrouver tout à l'heure après le débat dans ce que j'appelle tout le temps le foyer, c'est l'hall d'entrée pour le café qui forcément doit suivre à un petit déjeuner de bas. Alors, bon débat.
Merci beaucoup, Francisca. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux, nombreuses à cette heure matinale pour parler donc d'un sujet tout à fait d'actualité, quelle politique de défense en Allemagne. C'est un sujet qui occupe l'IFRI et le comité d'études de relations franco-allemandes en particulier, puisqu'on vient de publier une étude de Johanna Möhring, que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui comme intervenante à côté de Paul Maurice, que vous allez trouver aussi sur les côtés, sur les bancs, sur justement cette question du changement de doctrine, on va y revenir, qu'a parcouru l'Allemagne, ce qu'on appelle, ce que Francesca Humphreys avait déjà dit, le Zeitenwende, et puis maintenant, on est plus vers un Epochenbruch, donc peut-être une rupture d'époque, on va y revenir, donc n'hésitez pas à la consulter. Francesca, elle vous a déjà présenté nos intervenants, mais j'aimerais juste rajouter que Johanna Möhring, tu travailles aussi sur justement ces questions de changement de doctrine, mais aussi sur le commandement militaire et l'intelligence artificielle en tant que postdoctorante à l'université Grenoble-Alpes. Et dans le passé, tu as aussi publié une autre publication sur le sujet, le sujet un peu épineux entre la France et l'Allemagne. On va peut-être aussi aussi avoir l'occasion de revenir là-dessus, du SCAF, donc des projets d'armement conjoints. Donc pas mal de lectures, si vous voulez bien, que vous pouvez évidemment trouver sur notre site web. Sinon, Paul Maurice, le secrétaire général, ça a été déjà dit aussi, du CERFA Alifri. Mais si tu es là, c'est aussi parce que tu viens de publier un article également sur le sujet de la Bundeswehr, avec un focus sur le service militaire et la question donc du retour de ce service militaire. On va également revenir sur cette question. Je ne vais pas être plus longue en termes d'introduction, parce que l'introduction a été parfaitement faite par Francesca. Donc je vais juste vous expliquer rapidement les règles du jeu. C'est un débat assez court, donc on a à peu près 40 minutes. Puis on vous laissera la place également, bien sûr, de poser des questions chacun et chacune. Donc on va commencer avec les questions de la Bundeswehr en elle-même, où on en est, quelles sont les capacités, les questions de financement, évidemment, le place qu'aura éventuellement aussi l'industrie allemande, quels sont les potentiels pour l'industrie. Puis, bien sûr, on va revenir sur la question du service militaire. Puis parler de la doctrine, ce que je viens d'évoquer, donc ce changement du Zeitenwende vers l'Epochenbruch. Et puis bien sûr parler du franco-allemand. C'est pas pour rien qu'on est à la maison Heinrich Heine. Donc bien sûr on va parler sur les répercussions que ça aura sur le franco-allemand. Mais puisqu'elle vient de sortir ton étude, Johanna, j'aimerais bien commencer avec toi sur donc cette question de... Voilà, quelques années après cette fameuse déclaration d'Olaf Scholz, qu'on a appelée Zeitenwende, maintenant, quand on fait un premier bilan en 2026, où est-ce qu'on en est avec la Bundeswehr, avec la refonte de la Bundeswehr, avec son réarmement dans l'ensemble, avant d'entrer dans les petits détails plus techniques?
Merci beaucoup, Jeannette, et bonjour à toutes et tous. Et je tiens à remercier le CERFA à Livry pour son invitation et la maison Heinrich Heine pour son accueil vraiment très chaleureux. Alors, où est-ce qu'on est? Alors, je pense qu'on vit toutes et tous ici dans la salle, comme praticiens, chercheurs ou citoyens, mais aussi en dehors de cette salle, en Europe, un moment assez extraordinaire, et non seulement extraordinaire, mais aussi extraordinairement important pour la sécurité de l'Europe. Alors, extraordinaire parce que nous observons en temps réel la mise en place d'une réforme de politique publique, peut-être la plus emblématique des politiques publiques régaliennes, donc la mise sur pied de la politique de défense, avec comme but de créer l'armée la plus forte conventionnelle en Europe face à une Russie menaçante et délaissée par un allié de longue date, les États-Unis, qui avait garantit la sécurité non seulement de l'Allemagne, mais de l'OTAN par des garanties de sécurité conventionnelles et nucléaires. C'est une réforme qui se déroule dans un cadre, je pense, aussi extraordinaire si on compare avec d'autres pays, parce que c'est une réforme qui profite d'une mise en place étoffée par des moyens financiers assez considérable, par un gouvernement stable, les deux facteurs qui ne sont pas vraiment très courants de ces jours, et un soutien dans la population vraiment très très fort pour ces objectifs. Mais malheureusement, ce chemin qui semble être tout tracé avec des structures de gouvernance mises en place, des législations déjà décidées, est quand même compliqué de la mise en œuvre. Et pourquoi c'est non seulement exceptionnel, ce moment est aussi exceptionnellement important? Parce que du succès de cette réforme, de cette transformation nouvelle de la Bundeswehr, dépend en grande partie, on peut dire, la sécurité de l'Europe, sa capacité de dissuasion, d'exister aussi sur Europe pour exister comme un acteur de sécurité sur l'échiquier mondial, mais avec des complications, notamment comment cette nouvelle Allemagne, puissance militaire, pourrait s'insérer dans un contexte européen. Donc je pense, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Si on met nos casques de chantier, donc on observe que il y a beaucoup de choses qui sont en route, mais que à la fois Bon, sur un chantier, normalement, on suit les étapes de construction. Dans le cas de la réforme de la Bundeswehr, on observe quand même qu'en même temps que les différentes étapes sont mises en place, on change encore des piliers portateurs de la construction. Donc c'est une réforme compliquée, en mouvement. Ce qu'on observe, qu'il y a une forte volonté politique, qu'il y a une politique d'achat d'armement qui semble enclenchée, et aussi la volonté d'augmenter les effectifs de la Bundeswehr. Mais sur tous ces cas-là, il y a des points d'interrogation. Et je termine là avec cette première appréciation.
Oui, merci beaucoup, Johanna. Tu parlais d'achats qui sont effectivement, oui, qui sont effectués pour ce réarmement. Et c'est dans ce contexte que j'aimerais bien déjà montrer le premier graphique, parce que je pense que la question la plus importante, c'est d'où vient l'argent. Il y a cette idée de l'Allemagne de devenir la première force conventionnelle de l'Europe. On en est encore loin. J'avais lu qu'on est à la 12e place avec l'Allemagne comme force armée. Donc oui, peut-être on pourrait revenir sur cette question de dépenses militaires qui sont nécessaires aussi selon les objectifs de l'OTAN. À quel point l'Allemagne poursuit ce chemin, ses objectifs, et est-ce que c'est contesté? Peut-être pour réattirer là-dessus.
Et contester à l'intérieur ou juste pour...
D'abord à l'intérieur, oui.
OK. Alors, ça va être un peu technique, mais si vous êtes familier des situations budgétaires des États de la zone d'euro, vous savez qu'on est régi par le pacte stabilité de croissance qui a été mis en pause pour Covid. Et on revient maintenant à une sorte de normal, qu'on essaye d'avoir un déficit budgétaire maîtrisé et des dettes en pourcentage de PIB aussi en dessous d'une certaine barrière, donc les fameuses 60% et 3%. Donc on est loin pour la plupart du temps. L'Allemagne avait mis en place déjà en 2009 un frein à la dette pour justement ancrer ce pacte de stabilité et de croissance au niveau national. Et pour avoir des moyens supplémentaires disponibles, il a fallu changer la constitution, ce qui a été fait en mars 2025, ce qui a permis donc d'exempter les dépenses de défense supérieures à 1% du PIB de la règle du frein à l'endettement et de créer un fonds supplémentaire de 500 milliards d'euros pour aussi travailler sur les infrastructures en lien avec la défense, ce qui est bien sûr plus vaste que des achats d'armement. Alors, vous savez toutes et tous qu'il y a déjà eu le vote en 2022 d'un Sondervermögen, donc un fonds spécial de 100 milliards d'euros, pour, en quelque part, réparer le sous-investissement chronique de la Bundeswehr. Et cet argent est dépensé et en cours d'être dépensé, mais il va arriver à échéance en 2027. Il a donc fallu trouver de nouveaux financements. Et ce qu'on voit que là, on a, je pense, sur le graphique de l'étude, on voit donc le développement.
C'est en rouge le Sondervermögen, le fonds spécial qui s'écoule en 2027.
Donc, c'est cool. Donc, progressivement, donc, il y a une augmentation de la dépense de la défense. Et ce qu'on peut dire qu'en dehors les efforts qui sont faits pour investir dans les infrastructures aussi militaires, des casernes, il y a à peu près un volume de 300 milliards ou 400 milliards d'euros supplémentaires qui sont que dédiés à des achats d'armement. Donc, c'est des énormes sommes qui sont en jeu. Et au sein de l'Allemagne, ces sommes sont donc acceptées comme nécessaires, ce qui est assez étonnant parce que on sait que les Allemands, comme on a déjà hier entendu, ont des oursins un peu dans la poche, ont du mal à dépenser de l'argent pour l'investissement public. Là, après ce double choc donc de l'invasion de la Russie, ou comment on dit en allemand, folle invasion, donc vraiment de grande ampleur, cette invasion à partir de 2022, et ce changement d'orientation politique aux États-Unis a fait que les Allemands ont compris ou ont accepté un endettement supplémentaire, un poids sur les générations futures, pour venir à la rescousse d'une Bundeswehr vraiment en manque d'investissement.
Merci beaucoup. Paul, tu pourrais peut-être revenir sur cette notion aussi de cette réforme du frein à l'endettement. À quel point est-ce que c'est un changement de paradigme? En ce moment, ça discute aussi au sein de la coalition à quel point il pourrait y avoir une pérennisation de ces règles d'exception. Voilà, on est régulièrement interrogé sur cette question aussi d'un point de vue français. Est-ce que ça y est, voilà, c'est le début d'une politique plus keynésianiste, entre guillemets, à la française? Comment tu vois ce discours-là?
Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Alors à la française, en ce moment, je ne sais pas si c'est la bonne comparaison, étant donné l'état du budget français, même si on a une légère augmentation du budget de la défense, et plaisanterie mise à part, c'est ça qui fait la différence fondamentale, c'est le poids énorme que va représenter l'Allemagne en termes de dépenses de défense. Alors on est sur l'objectif des 2% ou 3,5 plus 1,5, 5 que Trump veut imposer, mais malgré tout, malgré les difficultés économiques de l'Allemagne actuelle, 2% en Allemagne, c'est pas 2% de la Lituanie. Donc le poids lui-même va peser et c'est ça qui fait de l'Allemagne un acteur majeur dans les années à venir de la défense en Europe. Parce que, Johanna l'a déjà dit, on va investir dans l'industrie de défense pour combler, d'une part, mais aussi pour investir et pour avoir de nouveaux matériels. Alors, sur la question, moi je suis toujours plus nuancé, sur la question de cette formule de première armée conventionnelle en Europe, que le chancelier a répété à Munich, il avait déjà formulé en mai dernier au Bundestag, que le chancelier Scholz avait déjà formulé en 2022. En fait, j'allais dire « à nouveau », c'est ça qui manque dans cette phrase. Être à nouveau la première armée conventionnelle en Europe, parce que c'était le cas de la Bundeswehr de l'époque de la guerre froide, où on avait en 90 3000 chars dans l'armée allemande, où on avait des dépenses de défense qui allaient jusqu'à 3, voire dans les années 60, 4 ou 5% du PIB, où on avait une armée de 500 000 hommes. Donc on avait déjà une armée conventionnelle très forte. Mais la question, c'est quel va être son emploi? Et je pense que c'est ça qui se pose derrière le budget. Que va-t-on faire de ce budget? Olaf Scholz, le chancelier Scholz, disait en 2022 dans son discours du 27 février « Je veux des avions qui décollent », ce qui était le premier objectif du fonds du Sondervermögen, de combler les difficultés. Les estimations à l'époque sur les 90 tornados de la Bundeswehr, il y en avait la moitié qui ne pouvaient pas voler pour des raisons d'entretien, de vétusté, etc. Donc c'était le premier objectif de combler 20 ans, 30 ans de désinvestissement lié aux dividendes de la paix, où on se disait que finalement on n'avait plus besoin. Et puis, on le disait hier, autour de 1% du PIB pour la défense, c'était déjà beaucoup, en prenant en compte les OPEX, les opérations extérieures, à l'époque, en Afghanistan et au Mali. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, un désinvestissement complet des questions militaires. Et donc, le sentiment aussi pour les militaires d'être déclassés, d'une certaine manière, d'être mis à l'écart et de ne pas être entendus par une société qui était c'était quoi le terme du président fédéral Horst Köhler, un désamour amical entre l'armée et la population, et donc où tout le monde était content de cela. Les choses ont changé, et la question qui se pose avec cet argent, c'est est-ce qu'il va pouvoir entraîner une mutation stratégique de l'Allemagne ? Parce que c'est la vraie question qui se pose. Avoir beaucoup d'argent, c'est très bien, on aimerait tous avoir beaucoup d'argent, c'est nécessaire, mais la question c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et dans quel objectif ? On connaît les objectifs globaux, la défense de l'Europe, la menace russe, mais il y a aussi d'autres objectifs qui rentrent en compte. Et dans quelle mesure ceci va permettre à l'Allemagne de reconstruire d'une certaine manière, de reprendre des objectifs stratégiques qu'elle connaissait déjà, ou d'en construire de nouveaux avec des partenariats européens, américains qui sont assez mouvants ces derniers temps, pour le dire poliment.
Oui, merci beaucoup aussi pour ces explications, ce qui s'est passé dans le passé et d'où on vient, et ces questions de désinvestissement qui a été fait, et maintenant cet investissement de nouveau pour réarmer la Bundeswehr. J'aimerais bien revenir avec toi, Johanna, parce que tu l'expliques bien dans ton étude. Quels sont un peu les enjeux qui se présentent en ce moment sur le niveau des capacités, et de quoi a-t-on vraiment besoin, sans faire une énumération complète de tous les avions ou de l'équipement qui est à acheter, mais pour avoir un peu une vue d'ensemble, voilà, de quoi attendre le plus besoin c'est quoi les enjeux? Parce que tu parles beaucoup aussi de ces procédures qui sont très lentes. Paul Maurice, il venait de dire, c'est bien l'argent, mais la question, c'est est-ce que ça va être dépensé de façon efficace et au moment voulu?
Alors, merci beaucoup. Permets-moi juste de faire un pas en arrière pour encore mettre cette réforme dans un contexte. Donc, on a parlé d'un contexte européen de sécurité, mais il faut dire que cette réforme de la Bundeswehr, elle s'intègre pleinement dans les planifications otaniennes. Donc, c'est un processus qui est vraiment régi pas par un plan allemand, mais qui fonctionne dans le NATO Defense Planning Process, donc les procédures de planification otanienne, qui donnent donc des objectifs très spécifiques et un cahier de charge à chaque membre de l'Alliance, qu'est-ce qu'il faut faire jusqu'à telle échéance. Et c'est un processus sur 4 ans. Et tous les 2 ans, on fait une revue, ce qui a été obtenu et réussi. Donc ça, c'est vraiment la feuille de route que suit l'Allemagne, avec donc aussi, pour revenir sur ce tableau budgétaire, d'augmenter les défenses à 5% du PIB pour honorer la promesse faite au sommet otanien de la Haye en juin 2025. Avec la possibilité de dépenser donc sur les 5% 1,5% sur ce qui est infrastructure. Alors, comment ça fonctionne, comment ça s'intègre aussi avec l'ambition européenne de créer des capacités autonomes. On a en même temps des encouragements sur le niveau européen de financement. Donc peut-être on peut revenir sur le plan Rearm Europe et le programme SAVE. Donc il y a des encouragements qui existent. Et comment ça fonctionne donc avec un acteur comme l'Allemagne qui a cette force de frappe financière. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a un système défaillant encore en grande partie de passation de marché, de procurement, comme on dit en anglais, en Allemagne. Et donc, une structure qui n'est pas habituée à gérer des grosses commandes et aussi des planifications de projets. Donc, un pilier de réforme, ça va être de transformer cette agence fédérale qui est en charge des passations de marché en un organisme plus rapide et un travail de débureaucratisation, parce qu'avec ce changement de on n'a pas d'argent mais beaucoup de temps, on a basculé dans un moment où on a beaucoup d'argent mais pas de temps. Donc comment on arrive à dynamiser aussi des bureaucraties et des personnes qui travaillent dedans à s'adapter à une urgence stratégique. Donc ça, c'est des ambitions, et on voit déjà pointer des difficultés. Par exemple, si on regarde un rapport de la Cour des comptes fédérale de mai dernier, qui observe que l'argent, il n'est pas vraiment dépensé de façon efficiente. Donc on est aussi dans cette urgence et obligation de dépenser avec une vision stratégique. Donc à un moment, on va arriver quand même à cette saturation d'avoir acheté des choses où il y avait vraiment des gros trous dans la raquette, et où on doit prévoir, penser stratégiquement qu'est-ce qu'il faut vraiment avoir et qu'est-ce qu'il faut prévoir. Donc là, je pense qu'il y a un enjeu capital, parce qu'avec les choix d'achat d'armes, on fait aussi un choix sur l'avenir, non seulement de l'Allemagne, mais aussi de l'avenir stratégique européen, parce qu'en faisant le choix de partenaires en restant en lien avec les États-Unis, en intégrant des technologies israéliennes, on reste dans une des dépendances qui peuvent potentiellement nuire donc à cette autonomie stratégique toujours naissante de l'Europe.
Merci beaucoup, Johanna. Et, tu as parlé de ces enjeux, mais en même temps, il y a aussi un grand potentiel qu'a l'Allemagne, mais aussi pour toute l'Union européenne. Paul, je ne sais pas comment tu le vois. On parle beaucoup justement d'un regain, d'une volonté d'un regain de compétitivité pour l'Allemagne, dans le franco-allemand. Il y a une feuille de route pour remettre sur les rails la compétitivité allemande. À quel point, parce qu'on parle beaucoup de désindustrialisation aussi en Europe, ce réarmement et ces nouvelles capacités pourraient aussi contribuer à une réindustrialisation de l'Europe. Oui, à quel point les autres partenaires européens pourraient en profiter, c'est peut-être encore une deuxième question. Mais déjà pour l'Allemagne, voilà, comment tu vois le potentiel d'un point de vue industriel ?
Alors, merci Jeannette. Effectivement, il y a un point, je le dis, j'imagine que les personnes présentes le savent puisqu'elles s'intéressent à l'Allemagne, c'est aussi la question de la situation économique actuelle générale de l'Allemagne et des difficultés de son industrie d'une manière générale, sans revenir sur le détail, sur la question de l'industrie automobile et sur la question des véhicules électriques chinois. Tout ceci avait été montré. Je suis en train de chercher une anecdote et je suis en train de chercher le nom précis de la personne que je voulais vous citer parce que en fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est ce qu'a dit Jeannette, c'est la manière dont cette industrie de défense peut devenir... En fait, il faut dire les choses de manière un peu plus brusque. L'industrie de défense allemande, contrairement à l'industrie de défense française, qui parfois est un arsenal qui ne dit pas son nom, est une sous-branche de l'industrie. C'est-à-dire qu'elle réagit comme une industrie qui a besoin de chercher des marchés, d'exporter, etc. Elle ne répond pas à des objectifs plus stratégiques ou dans une moindre mesure que l'industrie de défense française très intégrée au sein de la LPM. Je ne dis pas que je suis pour ou contre l'une des possibilités. J'ai pas retrouvé le nom de ce monsieur, c'est pas grave, je vais vous raconter l'anecdote quand même. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde au niveau des syndicats, par exemple, on a vu récemment un positionnement du syndicat IG Metall, donc le plus gros syndicat allemand, sur la question du SCAF, en disant qu'il fallait produire à l'échelle allemande. Pourquoi le syndicat plutôt marqué à gauche, on va dire, relais social-démocrate et de son aile plutôt pacifiste, dirons-nous, pour résumer, se positionne sur ça? Parce qu'en fait, son objectif, c'est d'avoir des emplois industriels. Et l'anecdote que je cherchais, c'est celle d'un député Die Linke, c'est-à-dire d'un parti de gauche radicale, de la Ruhr, ancien syndicaliste, dans une entreprise de métallurgie, qui disait de manière très claire, si nous devons produire de l'acier pour l'industrie de défense, nous le ferons et avec grand plaisir, ça sauvera nos emplois. Quand on connaît les positions de ce parti à l'échelle fédérale au Bundestag, qui est pour la dissolution de l'OTAN, qui est pour la paix en Ukraine, enfin avec tout ce que ça veut dire et tout ce que ça implique, on trouve ici un paradoxe peut-être, mais qui montre aussi la situation devant laquelle est placée l'Allemagne aujourd'hui sur la question de son industrie de défense. Et donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est dans quelle mesure les sous-traitants actuels de l'industrie automobile pourraient, je mets tout ça au conditionnel, j'ai pas d'informations particulières, mais pourraient être à moyen ou à long terme, des sous-traitants pour l'industrie de défense. Quand on produit une boîte de vitesse, eh ben, est-ce qu'on ne peut pas la produire pour un Léopard plutôt que pour une Volkswagen ? J'exagère un peu, techniquement, c'est pas exactement la même chose, mais il y a aussi cette question-là sur le modèle économique et industriel, et donc social, en Allemagne, sur ce que ça représente sur la réussite de l'ouvrier.
Merci beaucoup. On va peut-être revenir sur le rôle ou les répercussions que ça aura pour le franco-allemand, pour l'Union européenne dans un dernier temps. Il y avait cette question donc des capacités, des moyens à dépenser, du potentiel industriel, mais il faut aussi des hommes ou des femmes, mais pour l'instant on parle beaucoup d'hommes. Donc j'aimerais bien rebondir sur cette question du service militaire que tu évoques dans ton article. Je ne l'avais pas dit, il a été publié dans Politique étrangère, donc ce qui est notre revue de référence à l'IFRI, qui fête d'ailleurs ses 90 ans cette année. Donc vous pouvez retrouver cette publication aussi dans notre belle maison dans le 15e. La question est vraiment épineuse pour l'Allemagne, parce que, et ça aussi tu le décris décrit dans ton article, on a justement pas seulement désinvesti en termes de matériel, mais aussi en termes de personnel. Donc on a un manque de personnel flagrant. Sur ce graphique, on voit l'évolution donc, des effectifs militaires de la Bundeswehr depuis 1995. Donc voilà, j'aimerais bien te demander si tu pouvais peut-être évoquer, expliquer un peu en quoi ça consiste aussi cette nouvelle réforme qui a été mise en place de la Bundeswehr et quels sont un peu les chiffres à aboutir en fait.
Alors sur la question homme-femme, puisque c'est la première question qui a été mentionnée, c'est 13% de femmes dans la Bundeswehr actuellement. Et sur la question des femmes, il y a eu pour le moment une interdiction de l'obligation au service, des femmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contraindre les femmes au service militaire actuellement. La Constitution l'interdit. Donc si on voulait revenir sur un service militaire général, universel, avec les femmes, il faudrait modifier la Constitution, c'est-à-dire obtenir une majorité des deux tiers au Parlement. Ce qui me permet une petite incise, vous le savez probablement pour la plupart d'entre vous, mais l'armée allemande est une armée parlementaire. On parle beaucoup du chancelier, mais le poids du chancelier, c'est lui qui peut invoquer, décider d'envoyer la Bundeswehr en mission, mais sans vote nominal du Parlement, la Bundeswehr ne peut pas être envoyée en mission. C'est absolument impossible. Donc le poids du Parlement est ici fondamental, et aussi dans cette réforme que Jeannette a évoquée. Aujourd'hui, les chiffres, octobre 2025, c'est 184 000 hommes au sein de la Bundeswehr, et on le voit sur le graphique, on a des objectifs qui seraient, en termes de services actifs, de 100 000 personnes de plus d'ici 10 ans. Je résume, enfin, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Et donc la question se pose, comme dans d'autres pays européens, de la réintroduction d'une forme de service militaire en Allemagne. En Allemagne, le service militaire a été suspendu, et non pas aboli, en 2011. À l'époque, il y avait environ 10% de la classe d'âge qui faisait son service militaire, c'est-à-dire que la plupart se faisaient exempter. Une autre partie faisait un service civil, puisque la Constitution allemande indique la possibilité de l'objection de confiance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a introduit le service militaire en 1956, il a fallu trouver une alternative civile au service militaire, puisque nul, selon les termes de la Constitution, nul ne peut être contraint à porter les armes. La Constitution écrite en 48-49, vous comprenez pourquoi cette formule dans cette Constitution. Donc, dans cette intégration globale, on s'est posé, est-ce qu'on réintroduit le service militaire tel qu'il existait ? Il suffisait d'un vote simple au Bundestag, et ça voulait dire remettre en place les bureaux de recrutement, etc. Ce n'était matériellement pas possible. Pour une simple et bonne raison, ça fait 15 ans que le service militaire est suspendu, les casernes n'existent plus, les recruteurs n'existent plus, les bureaux de recrutement n'existent plus, et puis les cadres pour former les jeunes recrues n'existent plus. Donc on ne pouvait pas, du jour au lendemain, réinstaurer un service militaire tel qu'il avait fonctionné pendant 60 ans sous cette forme-là. Donc on a réfléchi, le contrat de coalition indiquait un modèle à la suédoise, c'est-à-dire un modèle qui repose, et c'est le principe de la loi de décembre dernier, sur un questionnaire envoyé aux jeunes hommes nés à partir de 2008, donc qui vont avoir 18 ans en 2026. À tout le monde, pardon, tu as raison. Envoyé de manière obligatoire, enfin avec une réponse obligatoire pour les jeunes hommes, et envoyé à tout le monde avec une réponse facultative, puisque comme j'ai dit, on ne peut pas contraindre les femmes au service, de manière facultative pour les jeunes femmes. Et c'est un questionnaire qui cherche à définir l'intérêt des uns et des autres pour les questions de défense, de sécurité, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'un tel questionnaire, il permet aussi d'évaluer les compétences des uns et des autres dans le cadre de différentes formes de conflits. Ça peut être sur des compétences sanitaires, par exemple, ou des compétences, j'en sais rien, si on sait conduire une ambulance ou ce genre de choses, ou à la sécurité civile. Donc c'est le modèle qui a été choisi, et ce modèle, il a des limites qui est celui de sa réussite ou non. Est-ce qu'on va réussir à attirer des jeunes hommes ou quelques jeunes femmes pour le service ? pour combler ces 100 000 personnes qui manqueraient d'ici quelques années. Aucune procédure n'a été instaurée pour réinstaurer un service militaire obligatoire dans le cas où on n'atteindrait pas les objectifs. C'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'il n'y a pas les objectifs qui sont atteints, on va devoir refaire une loi simple au Bundestag, pour réinstaurer le service militaire, alors que certains responsables politiques, notamment de la CDU, disaient qu'il fallait instaurer dans cette loi une procédure de glissement automatique si on n'atteignait pas les objectifs chiffrés. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont on va attirer les gens. On parlait d'argent tout à l'heure. Les salaires, les pensions proposées sont énormes. Enfin, 2600 euros pour faire un service de 6 mois, c'est quelque chose de 2600. Alors, 2007, selon les estimations, selon les primes, etc. Et puis, à partir du moment où on dépasse les 6 mois, il y a d'autres facteurs attractifs, des cours de langue, le permis de conduire, le permis poids lourd, enfin, ce genre de choses qu'on faisait avant au service militaire en France. Et en même temps, tout ceci a créé une espèce de raidissement dans la société allemande. C'est pour ça que j'évoquais quelques doutes sur la capacité de l'Allemagne actuellement. Les choses vont peut-être changer. Il faudra observer ça sur le moyen terme. On a vu tu le disais hier, des manifestations de lycéens. On va dire importante, pas très importante, mais importante, avec une crainte d'être obligé de faire le service. On a eu tout un débat au moment de la loi sur une question du tirage au sort. Est-ce qu'on allait tirer au sort ceux qui devraient faire le service ou pas, ce qui a créé une espèce de grand émoi dans la société. On a réinstauré la question du Musterung en allemand, c'est-à-dire les 3 jours qu'on faisait avant. Et donc, ça a été vécu comme quelque chose d'assez contraignant et donc, en fait, allant contre les lois sur la protection des données des personnes qui sont très plus importantes en Allemagne qu'en France. Et quand on regarde maintenant, ce sont des sondages, ils donnent une image de l'opinion, c'est toujours difficile de les évaluer concrètement, mais on voit qu'on a une légère majorité des Allemands qui est favorable à la réinstauration d'une forme de service, mais que quand on regarde les tranches d'âge, ce sont surtout les plus âgés, les plus de 60 ans qui, aux 2/3, sont favorables, et les 18-24 ans qui seraient concernés ne sont favorables qu'à 1/3. Donc on voit aussi que les principaux concernés, ils sont plutôt opposés. Et puis on voit une différence très importante entre les couleurs politiques. Au sein de la CDU, 3/4 des votants ou des adhérents ou des sympathisants, ils sont favorables. Chez les sociodémocrates, c'est les 2/3. Et puis plus on va à gauche, chez les... Chez Die Linke, on est opposé à 80%. Voilà. Et dernier point que j'aimerais soulever aussi, c'est dans tout ce débat, les autres idées qui ont été évoquées, et notamment une idée qui a été évoquée par une députée verte de Bavière, qui était un service pour la liberté, qui concernerait non pas seulement les plus jeunes, mais les personnes de 18 à 65 ans, et qui serait un service dans des institutions de santé, dans des institutions de sécurité civile, etc. C'est-à-dire, en fait, pour reconstituer ce qui n'existe quasiment plus en Allemagne, une base de réservistes. C'est ce que montrait aussi le graphique, c'est la perte, pour des raisons de protection des données, on a perdu une partie des coordonnées des réservistes, et de certains qui avaient même servi en Afghanistan, donc qui avaient des capacités, et on observe aujourd'hui des postes qui ne sont pas pourvus. Je crois que c'est un poste sur 5 d'officiers qui n'est pas pourvu aujourd'hui en Allemagne et qui pose la question ensuite, une fois qu'on aura pu recruter ces gens-là, de les faire rester. Est-ce qu'on pourra produire des contrats moyen terme, à durée déterminée, pour les personnes qui se seraient engagées pour 6 mois. Voilà, pardon, j'étais un peu long, mais j'ai essayé de résumer le débat et l'état des lieux de cette discussion.
Bon, en effet, il se pose des questions de technicité parfois aussi. Merci de brosser le tableau aussi d'un point de vue juridique ou procédures qui sont nécessaires. Juste pour rebondir sur ce graphique, ce qui est, je pense, aussi intéressant à relever, c'est qu'il y a dans l'ensemble une grande confiance vis-à-vis de la Bundeswehr. Il y a quand même une notion plutôt positif. Et en même temps, ce désengagement qui s'est fait sur les dernières décennies de vraiment vouloir s'engager concrètement à titre individuel, si c'était à moi de défendre l'Allemagne, est-ce que je le ferais? Avec une contestation quand même significative de la part de la jeunesse, ce que tu évoquais, avec des manifestations qui ont lieu de la part des lycéens, d'autres organisations de la jeunesse, qui ont effectivement critiqué aussi de ne pas avoir été suffisamment inclus dans le débat. Je ne sais pas s'il y a des choses à compléter, Johanna, mais j'aimerais bien aussi utiliser cette thématique pour avoir la transition vers la question du changement de la doctrine, en fait. Est-ce qu'à quel point on a vraiment accouché de ce que Friedrich Merz a appelé donc cette Epochenbruch, cette rupture d'époque? Est-ce que dans la société allemande, notamment parmi les jeunes, mais pas que, dans l'ensemble aussi de la société allemande, on a compris qu'on doit faire ce tournant et devenir une puissance militaire, militariste, je ne sais pas. À toi de me dire.
Excellente question. Je constate vraiment, si on revient sur notre chantier de la bonisphère avec nos casques, en inspectant ce qui a été accompli, on est vraiment face à ces trois ruptures, donc Epochenbruch, donc à la fois le modèle économique, ce qui Paul a si bien souligné, qui était fondé sur une énergie abondante et pas chère, et une créativité des PME et une main-d'œuvre formée abondante, qui, donc, tout ça semble être assez compliqué actuellement. Un modèle stratégique qui sous-traitait en fait la sécurité aux Américains. Et le troisième sorte de troisième rupture, c'est vraiment ce retour dans un monde en guerre qui pose la question: qu'est-ce qui sont nos devoirs comme citoyens? Donc ça, c'est quelque chose qui a été assez absent, pour ne dire très absent pour les 3-4 décennies dernières. Donc ça, c'est quelque chose qui se reflète aussi dans ce graphique que vous regardez. Donc il y a cette énorme confiance vis-à-vis de la bonosphère, mais c'est quelque chose qui est un projet purement, comment dirais-je, national. Donc on a confiance dans cette institution, pas comme un outil de puissance qui pourrait être projeté, mais comme quelque chose qui intervient s'il y a des crues, des fleuves, et on doit intervenir avec des gros matériels pour soutenir la population. Donc il y a encore cette problématique de comprendre, et ça vient avec cette rupture stratégique, comment l'Allemagne se positionne, donc un soutien à la bonosphère, mais pas du tout à cette responsabilité, prendre responsabilité militaire sur l'échiquier politique international, ce qui est donc de taille de souligner qu'on a déployé une brigade mécanisée en Lituanie, qui va être la première, qui va être stationnée de façon permanente à l'extérieur de l'Allemagne. Donc il y a des choses qui bougent, mais je pense qu'on est vraiment dans un apprentissage, mais c'est un apprentissage pour toutes les sociétés, des questions qui sont à la fois sociétales, mais aussi qui se posent à chacune et chacun de nous. Comment je m'engage? Qu'est-ce que je protège et comment je protège? Donc, d'une société très individualiste où on n'était pas du tout concerné pour ces questions, on est maintenant vraiment sommé de répondre à ces questions, et on voit ces incertitudes dans les réponses. Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on est prêt à défendre? Mais bon, la bonne réponse, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a assez pour de candidats dans les tranches d'âge qui pourraient donc servir comme soldats. Et je pense qu'il y a ce grand malentendu de dire tout le monde va être tout de suite envoyé au front. Donc je pense que ça inquiète beaucoup, parce que les réalités militaires, les réalités des forces armées sont très peu connues aussi en Allemagne. Il y a cette distance, je pense en France, on parle d'une indifférence positive. En Allemagne, c'est plutôt une indifférence très distante. Donc tout ça, il y a un énorme travail de familiarisation à faire. Et il y a cette question, bien sûr, de fracture de génération, de dire mais pourquoi nous, les jeunes, on devrait être disponibles s'engager massivement. Mais il y a des facteurs qui poussent vers un changement, mais aussi des freins. Et donc, ça reste un débat qui est vraiment en cours.
Merci beaucoup. J'aimerais juste rapidement revenir sur ce terme vraiment de Epochenbruch, la rupture d'époque, et en quoi ça consiste. Paul, peut-être tu pourrais élucider là-dessus. Est-ce que c'est pas aussi un changement, notamment vis-à-vis des nations, vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'OTAN? Donc, à quel point as-tu l'impression que cette rupture d'époque, elle a été réalisée vis-à-vis de la dépendance aussi de l'Allemagne, des États-Unis, ses besoins en termes d'armes et aussi cette culture stratégique qui était extrêmement dépendante des Nations Unies. Des États-Unis, pardon.
C'est, alors, il y a une prise de conscience, je pense, en Allemagne, de cette infiabilité de l'administration actuelle des États-Unis, et surtout, d'une manière générale, du détournement des États-Unis de l'Europe. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui, sur le long terme, qui était déjà un peu présent avant et qui sera présent après, quelle que soit la personne qui succédera Donald Trump à la Maison-Blanche. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train de monter en Allemagne. Et en même temps, il faut aussi se rendre compte de ce que ça veut dire pour l'Allemagne. C'est assez facile, d'une certaine manière, quand on est français, de dire ça, quand on a la force de frappe, quand on a la sortie du commandement intégré de l'OTAN dans les années 60, même si on l'a réintégré depuis, dans une culture stratégique différente. La Bundeswehr a été créée du fait de l'échec de la communauté européenne de défense en 1954 et de son rejet par le Parlement français, elle a été recréée dans le cadre de l'OTAN. L'accord de Paris du 23 octobre 1954, c'est la recréation de la Bundeswehr et en même temps l'intégration de la République fédérale d'Allemagne au sein de l'OTAN. Donc tout est otanisé d'une certaine manière dans la Bundeswehr. C'est un constat. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est un constat. Et donc on ne peut pas dire du jour au lendemain, hop, on va tout changer, on va remodifier, etc. J'allais dire, même dans les partis politiques, parce qu'il y a des militaires qui ont des opinions politiques diverses, comme partout, et on a des militaires qui sont adhérents ou élus de l'AFD, ils sont en porte-à-faux avec les positions de leur parti sur les États-Unis parce que, comme ils sont militaires, ils sont intégrés dans une logique atlantiste. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment ça. C'est comme ça. On ne peut pas demander à cette armée de changer du jour au lendemain. Le Epochenbruch, la question pour l'Allemagne, c'est la question de Kriegstüchtigkeit. Est-ce que l'Allemagne est aujourd'hui en capacité de faire la guerre ou de potentiellement la faire. Être en capacité de faire la guerre, c'est pas forcément prendre sa baïonnette et aller dans une tranchée en Ukraine immédiatement. C'est dans la capacité de le faire, matériellement, politiquement, socialement, sociétalement, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire aussi la question des pertes des soldats. On a eu le débat en France du fait des propos du chef d'état-major des armées à l'automne. C'est un débat qui, imaginez-le, aurait eu un écho beaucoup plus important et beaucoup plus traumatisant en Allemagne s'il avait eu lieu au même moment. Voilà.
Alors, le temps file et je vais bientôt vous laisser évidemment la possibilité de poser des questions à nos intervenants. Mais juste peut-être pour finir un peu en franco-allemand, ce que vous voyez comme répercussion sur le franco-allemand, bien sûr aussi sur l'Union européenne avec ces changements en cours, que ce soit sur le plan peut-être doctrinal, mais aussi en termes de collaboration concrète, en termes de projets d'armement. Peut-être pour commencer, parce que tu l'évoquais aussi tout à l'heure, le terme de l'autonomie stratégique, qui était évidemment l'adage porté par Emmanuel Macron depuis 2017. Yona, est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un véritable alignement d'un point de vue doctrinal entre la France et l'Allemagne avec donc ces revendications côté français et ces changements donc en cours côté allemand et avec un certain peut-être contentement côté français, ça y est, on vous l'a dit, enfin, vous avez compris qu'il faut donc bâtir justement cette autonomie stratégique ensemble.
Ben, merci pour cette question excellente. Alors il faut malheureusement constater que malgré les pressions énormes à la fois économiques et géopolitiques, l'environnement actuel n'a pas vraiment poussé les deux pays au cœur de l'Europe à s'aligner. Et ça, c'est un fait que les modes de fonctionnement stratégiques de l'Allemagne et de la France restent éloignés. Et ça semble être contradictoire parce que on observe donc les prononciations et les volontés politiques qui sont exprimées, et ensuite on constate les faits. Donc il y a une certaine divergence. Est-ce que ça reste ? Est-ce qu'on pourrait s'aligner sur les visions stratégiques ? ça reste à voir, mais dans une relation aussi institutionnalisée que le franco-allemand, ça frappe quand même que dans une situation de crise, ça ne pousse pas à plus de coopération, mais ça fait au contraire émerger des points de dissension. Alors, ce qu'on peut dire, que l'Allemagne est mise vraiment, et là, elle est dans une zone de confort, le retour dans son un statut de l'armée centrale de l'OTAN, donc de se concentrer sur cette tâche de défendre l'Alliance et le territoire allemand. Et donc, comment ça va se coordonner avec ces ambitions franco-allemandes d'armement? Ben, pour l'instant, pas du tout. On a évoqué les crises des projets conjoints comme le MGCS et le SCAF, donc le char de combat et l'avion futur de combat. Et bien sûr, cette question que par des achats des systèmes d'armement, on crée donc des tendances qui vont être portées par tous les Européens. Mais ce qu'on voit que l'Allemagne, elle construit vraiment, et elle sera, je pense, rejointe par la France, d'investir dans un pilier européen au sein de l'OTAN avec une ambition à moyen et long terme de plus d'autonomie, mais avec cette réalisation, si on veut être prêt jusqu'à 2029 pour avoir les fameux objectifs de force otaniens, il faut acheter tout ce qui est sur le marché et accepter de réfléchir sur les interdépendances et dépendances stratégiques plus tard.
Merci beaucoup. Donc avant de vous laisser la parole... Ah oui, ok, bon, très bien. J'allais revenir rapidement sur le SCAF, mais juste pour dire que tu viens de publier aussi une tribune, Paul, sur la question pour ceux qui ont des questions de détail pour Actua Franco-Allemand. Voilà, donc n'hésitez pas à lever vos mains si vous avez des questions par rapport aux différents aspects qu'on a évoqués ensemble. Je suis sûre qu'il y en aura, donc je vois un monsieur au premier rang.
Monsieur du premier rang, il va prononcer un gros mot. C'est les Eurobonds de défense. Kriegsverschuldung. Est-ce que ça doit être, je prononce peut-être mal, est-ce que ça peut se concevoir à l'échelle d'un pays ou à l'échelle de la sécurité collective de l'Europe tout entière? Donc les besoins sont évidents du fait des menaces. Les engagements sont pris de façon unanime par tous les pays européens. On va dire pas uniquement sur la pression de Trump, 5%. Et puis il y en a qui peuvent et d'autres qui ne peuvent pas. Quel est le résultat si effectivement on offre à Poutine une réponse, disons, fracturée, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens? C'est ça où Draghi propose les eurobonds de défense, parce qu'il s'agit d'un enjeu collectif de défense de l'ensemble de l'Europe. Le président de la Bundesbank s'est lui-même exprimé dans le même sens. L'ex-président de la banque fédérale hollandaise également. Je dis ça simplement pour dire qu'il me semble que le débat est ouvert, mais qu'en pensez-vous?
Oui, merci beaucoup pour cette question. Paul, tu veux reprendre?
Réponse politique. En fait, la question de l'endettement de l'Allemagne, il devient un point de cristallisation fort actuellement. C'est-à-dire que Merz avait promis, pendant la campagne électorale de fin 2024, début 2025, qu'il ne réformerait pas le frein à l'endettement. Première chose qu'il fait, parce qu'il veut le faire avec l'ancien Bundestag dans le mois qui suit les élections, donc avant le 23 mars 2025, il doit le faire, parce que sinon il n'a pas de majorité des deux tiers pour réformer la Constitution, il réforme le frein à l'endettement. Et il réforme le frein à l'endettement sur des principes qui avaient été exposés par les sociodémocrates, d'une certaine manière. Bien sûr, il y a des questions de compétitivité, mais quand on regarde un peu en arrière, c'était les plans proposés par Jörg Kukies, qui a été conseiller secrétaire d'État à la chancellerie, puis ministre des Finances. Donc on a le sentiment chez les électeurs chrétiens-démocrates qu'ils ont été un peu floués dans tout ça. Et on a vu dans les mois qui ont suivi une remontée dans les sondages de l'extrême droite qui jouait sur cet ordo-libéralisme allemand, parce qu'on a au sein de l'extrême droite allemande une des anciens membres des libéraux, du FDP, ce qui est le cas de Alice Weidel. Elle a été adhérente du FDP. Le parti a été créé par des professeurs d'université, des économistes qui s'opposaient au sauvetage de la Grèce à l'époque. Donc on a cette logique-là. Et donc... Friedrich Merz est complètement coincé. Surtout qu'on est dans une année Superwahljahr, comme on dit. Il y a toujours une Superwahljahr, c'est vrai. Mais on a 5 élections régionales dans lesquelles la CDU, on l'a vu en Baden-Württemberg où elle espérait arriver en tête et elle arrive d'une courte tête derrière. On a des élections à l'Est où l'extrême droite est créditée dans certains sondages à 40, voire plus de 40% des suffrages. Et donc, Friedrich Merz a besoin de rassurer son électorat. Et donc, quand le président de la République française vient marteler « on a besoin d'eurobonds, on a besoin d'eurobonds », en fait, il va vexer plus qu'il ne va ouvrir le débat. Je ne dis pas que sur le fond, peut-être a-t-il raison, peut-être que le président de la Bundesbank a raison, mais on est dans ce blocage-là, et en fait, on est dans une situation politique qui limite, on va dire, pour le dire gentiment, cette possibilité-là. Sur le fond, peut-être que tu as raison, Denis, peut-être que c'est la solution, c'est d'européaniser et de réfléchir en commun. Mais on est dans cette situation-là aujourd'hui.
Mais on a utilement des précédents qui existent déjà. Donc si on regarde la force de frappe au niveau européen, on a cette capacité de mobiliser par les exemptions budgétaires de 800 milliards, donc de permettre... Oui, ok, d'accord. C'est un début. Il faut de donner donc la possibilité aux États de faire des investissements s'ils sont liés à la défense, le numérique et l'environnement. Et les 150 milliards qui existent pour encourager, et ça c'est important, de faire des passations de commandes collectives au niveau européen, avec toujours cette idée de coordonner ces achats, parce qu'ils sont bien sûr en lien avec des choix stratégiques. Donc je dirais qu'il y a le noyau existe, il y a cette nécessité d'investir, et on attendra peut-être un moment un peu plus propice pour y aller à nouveau.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a encore le temps pour une ou deux. Donc là, je vois une et là-bas.
Oui, bonjour à tous. Donc, Laurent Glasgal de la DGA. On sent bien que la politique allemande d'acquisition est essentiellement tournée vers la promotion de l'industrie allemande, ce qui explique globalement que le couple franco-allemand bat de l'aile. J'ai deux questions. Pouvez-vous m'expliquer ou m'orienter sur le fait que dans les discussions au niveau européen, l'Allemagne n'est pas forcément pour la préférence européenne en termes industriels. Mmh. Et deuxièmement, si le couple franco-allemand bat de l'aile, qu'en est-il de l'orientation allemande vis-à-vis plutôt des pays de l'Est, coopération politique, industrielle, voire revendre une partie de matériel qu'ils vont acheter parce qu'ils ne pourront pas l'utiliser à tous nos partenaires côté ouest, Est. Merci.
Mmh. Merci beaucoup. On peut peut-être regrouper et prendre l'autre question là-bas.
Bonjour. Oui, ma question porte un petit peu sur le même sujet, mais pour reprendre une idée que vous avez évoquée tout à l'heure, le fait que l'industrie de défense pourrait être mobilisée pour donner des débouchés et redynamiser le tissu industriel. Est-ce que, comme on peut l'entendre parfois ici, considérer que des géants comme Rheinmetall, par exemple, vont être mobilisés pour devenir des chefs de file de l'ensemble du tissu industriel pour le redynamiser. Est-ce que ça, c'est une vision très politique, très française? Vous expliquiez tout à l'heure que le fonctionnement de l'industrie de défense française ne doit pas être trop comparé avec celui de l'Allemagne. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est une vraie possibilité selon vous?
Merci beaucoup. Et ça rejoint l'idée de la première question concernant la promotion de cette industrie allemande, mais avec un sous-aspect sur la préférence. Et puis on a la question aussi de l'orientation vis-à-vis des pays de l'Est. Je ne sais pas qui veut commencer avec quoi, mais Johanna peut-être sous le poids du nom.
Alors merci pour ces questions très très pertinentes. Il y a cette idée de différence entre le modèle industriel de défense français et allemand, ce que Paul a souligné, d'une implication plus directe politique en France versus une sorte d'indifférence et laisser la croissance organique faire son jeu côté allemand. Je pense que c'est en partie vrai, mais là on est dans une situation, et ça rejoint la question qui était posée tout au dernier rang, sur la création des monopoles, parce que si on a un acteur aussi puissant comme Rheinmetall, malgré le fait qu'on a espéré créer des champions européens, là, on est sur un acteur qui prend une telle place qu'on est en train d'étouffer à la fois des innovations dans certains secteurs, mais aussi de verrouiller les marchés, non seulement dans tout ce qui est véhicules blindés et chars, mais maintenant... l'aéronautique, le secteur naval. Donc ça demande une réponse politique qui ne vient pas pour l'instant, mais qui est posée à la fois pour avoir cette dépense efficace, parce que bon, un acteur dominant peut bien sûr aussi dicter les prix, et la politique industrielle de Rheinmetall de travailler avec des partenaires à la fois américains et israéliens. Donc ancrer des dépendances stratégiques à long terme. Pour l'instant, je ne vois pas une réponse des responsables politiques allemands, parce que la justification donnée, c'est l'urgence de devoir agir et de produire et d'organiser cette montée en puissance. Mais ça va absolument revenir, et j'espère qu'on trouvera des réponses intelligentes pour. La question, est-ce qu'on crée, donc, à part si on ne peut pas miser sur un duo compatible franco-allemand, est-ce qu'il y a d'autres essors industriels qui seraient plus fonctionnels? Bon, ce qui semble assez logique, que les pays qui ont une vision stratégique compatible puissent mieux travailler ensemble sur, parce que les spécifications des systèmes d'armement vont être plus voisins. Ça, c'est clair. Ce qu'on voit, que par le biais de l'OTAN et le rôle de l'Allemagne comme framework nations, donc armée, nation cadre, merci beaucoup, elle arrive à intégrer non seulement dans un contexte militaire, mais aussi dans une politique d'achat groupée des pays comme les Pays-Bas, mais aussi en travaillant avec la Pologne. Et je pense aussi que l'acteur comme Rheinmetall vont miser sur les pays de l'Europe de l'Est comme site de production, mais aussi des coopérations, par exemple, avec des acteurs en Ukraine sur tout un nombre de technologies qui sont en cours de développement.
Si tu veux continuer. Oui, non, très, très rapidement. Enfin, rien de plus à ajouter, si ce n'est que le Léopard 2, c'est un bon produit, en fait. Et c'est ça. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'action nulle part, hein, chez personne. Mais il faut aussi constater que c'est un produit qui correspond aux besoins. Alors, bien sûr, il y a un industriel qui écrase le reste et qui. Mais c'est quand même un produit qui a fait ses preuves. Et c'est difficile à accepter quand on a soi-même aussi des enjeux industriels. Sur la question de Rheinmetall comme acteur, nouvel acteur du tissu industriel, c'est peut-être effectivement très français, parce qu'en fait, en Allemagne, ça fonctionne plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a un tissu plutôt de PME, le Mittelstand, comme on dit en Allemagne, qui va ensuite agréger et attirer les grosses entreprises pour en servir de sous-traitance, ce qui est le cas au Bad Württemberg, par exemple, sur l'industrie automobile. Donc il faut voir aussi comment tout ça s'agrège, parce qu'il y a moins de politique publique sur la question industrielle, et on a la question de d'un État fédéral avec aussi des politiques à l'échelle locale. Et je rappelle que dans la réforme du frein à l'endettement, cette réforme du frein à l'endettement s'applique aussi aux lenders qui jusque-là ne pouvaient s'endetter qu'à 0%, c'était 0,0,0. Là, ils ont une possibilité de s'endetter un petit peu, et donc ça peut avoir des effets sur les politiques industrielles à l'échelle locale.
Merci beaucoup. Je pense que ça va être le mot de la fin, parce que notre temps est écoulé. Mais je vous remercie vivement pour votre participation, et vous invite donc à prendre la note de Johanna Möhring, à consulter les autres notes qu'on a publiées à l'IFRI. Et je suis sûre que ce débat, voilà, on va le refaire d'une façon ou d'une autre, parce que c'est un sujet voilà, qui reste tout à fait d'actualité. Donc merci beaucoup à tous et toutes d'être venus ce matin, et à bientôt. Pour ce qui fait bouger l'Allemagne.